Donc c'est à moi d'ouvrir le bar à défaut d'ouvrir le bal, si j'ai bien compris. Donc Christian Magro, adjoint au maire à La Redorte. Dans une vie passée, j'ai arpenté le département de l'Aude en premier lieu pour étudier la pollution de Salsigne, dont je reconnais quelques personnes et que je salue. Et par la suite, donc, j'ai été sur un programme de recherche du ministère de l'Environnement et d'un laboratoire du CNRS, le CRESAL, basé à Saint-Étienne, qui avait comme thème d'étude la part du public dans l'événement de catastrophe naturelle, donc une approche sociologique, parti pris de venir 4 ans après dans l'Aude et de savoir, eh bien, est-ce que le sinistré, est-ce que c'est un citoyen passif, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il s'implique, est-ce qu'il va chercher ce qui s'est passé, pourquoi, et est-ce qu'il s'engage dans une démarche de, eh bien, essayons de sensibiliser, essayons d'aider les autorités pour que cela ne se reproduise plus. Alors, si vous me permettez, on va peut-être partir du cas de La Redorte. La Redorte, en 1999, a été profondément marquée. Il n'y a pas eu de mort, mais il s'est abattu 512 mm en 24 heures. La commune compte 520 foyers. Il y a eu 250 foyers d'inondés. On a une maison de retraite de 80 lits qui a dû être évacuée dans la nuit. Et globalement, le coût des inondations était de 400 000 euros. La Redorte a été touchée puisque nous sommes impactés par un ruisseau qui est le Rivacelle qui traverse le village et nous sommes en bout du course de ce ruisseau. On est un peu comme dans un entonnoir, on a une problématique, c'est le canal du Midi. Voilà, le canal du Midi dont les voûtes sont sous-dimensionnées et lorsqu'il y a des embâcles qui arrivent de la montagne noire, ça fait barrage et tous les bas-quartiers sont inondés. Donc dans les bas-quartiers c'était entre 1,50 m et 2 m d'eau. Dans la presse à l'époque, peut-être pour les Audois qui se souviennent, le canal du Midi donc, traverse le village et il y avait des péniches à 2 km au milieu des vignes, pour vous donner un petit peu la force et l'intensité de cette inondation. Alors, à chaque fois, on cite La Redorte en exemple. Le maire, dès le lendemain, a dit « il faut s'équiper, il faut informer, sensibiliser la population ». Donc en 2000, il a été décidé de souscrire à un système d'alerte Antibia qui permettait d'alerter la population par le biais de téléphone lorsqu'une inondation arrivait. Ce système-là prenait 45 minutes pour que les trois quarts du village soient informés. Il y a eu donc parallèlement les travaux du SIABAD, qui est le syndicat du bassin versant. Et de suite, dès que le SMAR a été mis en place par le Conseil Général, ça a été de raisonner à l'échelle du bassin versant. Ce qui est logique, ce qui paraît logique. La Redorte a été distinguée hier au Congrès des maires par Orange France Télécom, puisque l'on a reçu le prix de l'innovation technologique qui s'appelle Contact Everyone, qui est un produit de Orange. Et qui permet d'alerter la population par SMS, par fax, par Internet, par MMS. Ce système permet d'alerter la population en 15 minutes. Donc c'est un système d'aide à la décision et d'outils de prévention, de sensibilisation rapide d'alerte aux habitants.
Christian Margot, oui. Je crois qu'on reviendra sur ça. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, sur ce qui a été mis en place. Mm-hmm. Peut-être la première question que j'avais envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que les risques naturels. Qu'est-ce que ça veut dire, un risque naturel?
Alors, comme je suis très jeune, je vais passer la parole au spécialiste.
Donc, c'est Monsieur Frédéric Auger.
Frédéric Auger, je vais donner un début de réponse et mes collègues vont aussi donner leur point de vue puisque ma réponse sera polémique. Le plus souvent,
est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, monsieur
Frédéric Auger, couillon du CNRS. Donc.
Ah bon?
Oui. Les risques, pour moi, je parle souvent en cours de risques dits naturels parce que je crois qu'il faut quand même s'interroger sur la part de l'homme. dans ce qui se passe. L'aléa est peut-être naturel, le risque, on peut en discuter, mais j'ai des collègues beaucoup plus compétents que moi pour donner leur point de vue, donc je passe le micro d'abord à la dame, donc à la camarade Monique Faure, où, ah non, elle dit non, Freddy, bon alors Freddy.
Alors, qui est monsieur Freddy Véné, qui est professeur de géographie des risques naturels de l'université Montpellier 3, oui. 7.
3, c'est suffisant, il y en a 7.
3.
Il y en a assez de 3.
3. C'est madame. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que les risques naturels ? Alors,
rapidement, sans se noyer dans les considérations théoriques, en gros, la conception de ce qu'on a des risques naturels a un peu évolué. Alors, en caricaturant un peu, on est passé d'une conception ancienne où, finalement, les fléaux naturels tombaient sur l'homme de façon un peu calamiteuse, c'était la sanction divine, et puis à la limite il n'y avait rien à faire que s'en remettre au jugement divin. Et puis progressivement la responsabilité humaine a été mise en évidence. Et maintenant, on est d'accord sur le fait que les risques sont bien la combinaison de facteurs naturels, d'événements naturels et de ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire la présence d'enjeux vulnérables qui sont exposés à ces facteurs naturels. Donc il y a bien les deux composantes. Mais je dirais que le facteur naturel est plutôt le déclencheur à un moment X, et puis la vulnérabilité, les enjeux, c'est la permanence, c'est ce qui va déterminer l'importance de la catastrophe. Et souvent, les catastrophes sont justement des révélateurs à un moment donné de fragilité dans la société. Hein, moi, y a un exemple qui est très simple, c'est par exemple la canicule de 2003. Hein, la canicule de 2003, elle est arrivée dans une société, à un moment donné, où on s'interrogeait beaucoup sur le vieillissement, sur la prise en charge des personnes âgées. Également, si vous vous souvenez, il y avait un débat à l'époque sur les services d'urgence, hein, sur l'insuffisance des moyens dans les services d'urgence, etc. Et finalement, cette canicule, elle est arrivée à un moment où il y avait une vulnérabilité dans la société, où la société se posait des questions sur un certain nombre de problèmes. Si vous vous souvenez également de la période précédente, la canicule précédente, alors qu'il avait été plus une sécheresse qu'une canicule, c'était 1976. Hein. Et 1976, là, ce qui avait tenu le devant des médias et de l'actualité, c'était l'agriculture, hein, avec l'impôt sécheresse qui avait été décidé par Giscard, hein, parce qu'à l'époque, on était dans une période de forte croissance de l'agriculture, de mise en place de l'agriculture productiviste. Et cette sécheresse de 1976, elle est arrivée notamment en Bretagne, dans l'ouest et le nord de la France, dans un milieu très vulnérable précisément, parce que les agriculteurs étaient endettés, hein, parce qu'on leur disait faites du maïs. Or, le maïs, il n'est pas adapté à la sécheresse d'été. Hein, donc là, il y avait une vulnérabilité. Hein, donc c'est vraiment ce croisement entre les deux qui est pour nous chercheurs intéressant.
Madame Monique Faure. Oui.
Il ne me semblait pas que la canicule, ni que l'impôt sécheresse, toutes ces choses-là, soient des risques naturels précisément. Je ne les classais pas là-dedans, moi. Plutôt les inondations. Enfin, je n'avais jamais entendu dire que la canicule faisait partie des risques naturels. Mais
Météo France ne le pensait pas non plus avant 2003. Avant 2003, il n'y avait que certains spécialistes qui avaient mis en évidence des dommages ou des victimes potentielles en relation avec la chaleur. Hein, il y avait Besancenot, par exemple, un de nos collègues de Dijon.
Pour moi, ces choses-là, jusqu'au moment où vous en parlez, ne faisaient pas partie de ce que j'appellerais les risques naturels, personnellement, en tant qu'observateur. Je ne suis pas du tout spécialiste.
Il n'était pas
ressenti. Par contre, les inondations, effectivement, ça paraît un risque naturel. Les cataclysmes naturels, les volcans, les choses comme ça, apparaissent comme des risques naturels, alors que la canicule, moi, je ne le classais pas là-dedans, mais c'est peut-être...
Oui, non, mais bon, c'est quelque chose de peut-être un peu plus rare, qui effectivement, qu'on a découvert en 2003, mais ça a existé auparavant, hein, dans d'autres pays aussi. Hein, il n'y avait pas...
On va revenir sur le débat. Les risques naturels, madame. pour vous, c'est quoi?
Non, mais alors, je me présente.
Alors, Monique Faure, oui.
Monique Faure, je suis professeure à l'Université Paris Diderot, Paris 7, où nous avons une formation comme celle de Montpellier.
Je vais vous monter le micro.
Qui est consacrée aux dynamiques des milieux et aux risques. On ne précise pas s'ils sont naturels ou technologiques. Et d'ailleurs, je passerai tout à l'heure le micro à mon collègue de la même université, Gérard Beltrando, pour reprendre ce débat sur la sécheresse. Pour nous, les risques, comme je vous l'ai dit, sont le résultat d'un événement d'origine dont la cause peut être naturelle, de fortes précipitations. Bon, on a évoqué des températures exceptionnellement élevées, etc. Les risques volcaniques. Bon, mais il n'y aurait pas de risque sans société, sans enjeux, sans vulnérabilité, mise en danger. De groupes humains, de leurs activités, etc. Voilà.
Oui, on ira peut-être voir du côté de la Rodorte s'il y a aujourd'hui des explications de ce qui s'est passé réellement.
Voilà. Et alors, ce que je voulais ajouter, pourquoi l'intérêt nous avons eu sur l'Aude, eh bien, en fait, l'un de nos collègues récemment nommé avait travaillé sur la catastrophe de Vaison-la-Romaine.
Oui.
Et lorsque nous avons entendu qu'il venait de se passer une catastrophe liée aux inondations dans l'Aude, nous avons décidé de venir et étudier. Alors, on n'a pas pu le faire tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun moyen de logement. Tous les logements possibles étaient réquisitionnés pour les sinistrés. Mais quelques 3 semaines après, nous sommes venus sur site, justement dans le bassin versant de l'Argent Doubs, qui avait été très, très atteint par ces inondations.
Et aujourd'hui, vous êtes là. Il y a des colloques un petit peu partout. C'est
voilà,
peut-être
alors,
un petit peu.
Alors, suite à cette première expérience, nous avons pensé que c'était parce que nous avons non seulement essayé d'étudier les effets de la catastrophe d'un point de vue naturel, mais également nous avons rencontré beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui avaient été touchées. Nous avons beaucoup discuté. C'était à la fois des habitants, des villages, mais également des responsables. Et nous avons pensé que c'était sans doute un bon endroit pour revenir avec des étudiants. Et nous sommes depuis très régulièrement, tous les ans, venus passer une semaine, voire 10 jours, avec nos étudiants pour leur montrer et leur faire rencontrer les différents acteurs de la gestion des risques naturels. Voilà.
Vous souhaitez peut-être intervenir. Vous levez la main si vous le souhaitez. Oui.
J'aurais voulu apporter peut-être une similitude entre la notion de risque naturel et la notion de maladie au niveau de la conception humaine qu'on en a. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui s'ignorent et d'un seul coup qui deviennent de vraies maladies, qui ont une entité de maladie. Il y a des exemples comme ça, c'est bon, par exemple la. J'ai le cœur qui bat trop vite. Enfin, il y a des maladies qui ont été reconnues par les assurances, prises en compte par les assurances, mais qui par la société qui n'étaient pas reconnues. Donc c'est les assurances qui ont donné cette notion de maladie. Et je pense que pour les risques naturels,
Oui.
Oui, personnellement, je préfère parler de risques liés à la nature. La nature, comme l'a dit Vinet, c'est un facteur enclenchant. Et je crois que ça va bien. Il n'y a pas de risque sans homme. Et simplement, le fait qu'il y ait un aléa atmosphérique, parce que là, on parle de l'atmosphère, que ce soit la sécheresse, que ce soit la canicule très proche, que ce soit l'inondation. Bon, la seule différence entre les deux, c'est les échelles de temps et d'espace. Une inondation, c'est un phénomène relativement ponctuel, on peut discuter d'ailleurs dans le cadre de l'ODE en 99, alors que la sécheresse est un phénomène qui a une extension spatiale généralement très étendue. Les sécheresses africaines, elles s'étendent sur des surfaces qui ont 3 ou 4 fois la taille de l'Europe. Mais c'est pareil, c'est un aléa, on pourrait dire une anomalie, mais j'aime pas ce terme parce qu'il prête à confusion. C'est un écart par rapport à une moyenne qui est extrêmement important, mais sur des échelles de temps et d'espace qui peuvent être très variables. La grêle qui tombe, eh bien, la grêle, ça va être un secteur très localisé. Il y a des couloirs de grêle qu'on connaît très bien. Frédéric Vinet avait fait une thèse là-dessus, il connaît mieux que moi. L'inondation, c'est pareil. C'est avant tout une situation météorologique qui n'a rien d'exceptionnel d'ailleurs, mais qui est extrême, qui a une fréquence très faible, qui apparaît rarement, mais c'est tout. Donc je crois que dans les deux cas, et donc pour en venir aux vagues de chaleur, eh bien, c'est un aléa du même type. C'est la vulnérabilité d'une société à un instant donné qui déclenche la polémique que nous connaissons. Gérard Beltrandeau, climatologue.
Merci de vous être présenté. Mais c'est vrai que quand on parle de risques naturels ou de catastrophes, effectivement, on a la première image, c'est ce qui s'est passé à Vézin-la-Romaine, c'est ce qui s'est passé ici dans notre région. C'est vrai que c'est les premières images qu'on peut avoir quand on parle de catastrophes naturelles. Mais je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette possibilité de pouvoir les prévenir? Est-ce qu'on peut aujourd'hui facilement... Je voulais peut-être prendre oui, le micro.
Je vais revenir d'abord sur ce que vous disiez, parce que vous avez parlé d'image. Bon, et je vais revenir un petit peu sur mon mot provocateur de tout à l'heure. Bon, on fonctionne par rapport à quoi? Par rapport à 4 types de morts. Un, le mort kilomètre. Un mort à 1 km a beaucoup plus d'importance pour nous, sociologiquement, que 10 morts à 100 km. Le mort jour. Un mort hier a plus d'importance que 10 morts il y a 50 ans, beaucoup plus d'importance que 500 morts il y a 100 ans. Troisième type, le mort image, vous venez d'en parler. C'est-à-dire qu'un mort, quand il n'est pas en image, quand il n'a pas été filmé pour le prime time de 20 heures, il n'a aucune importance. Et ça a parfaitement été intégré par les militaires. Et c'est bien pour ça que certains types de morts en Amérique latine, en Asie ou en Amérique, tout le monde s'en fout. Quatrième type de mort, le mort passeport ou le mort drapeau. Un mort français a beaucoup plus d'importance pour nous que 5 morts danois, qui ont beaucoup plus d'importance pour nous que 50 morts maghrébins, qui ont plus d'importance pour nous que 500 morts du Zimbabwe. Il faut dire les choses clairement. Toutes les enquêtes l'ont démontré. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite...
C'est triste ce que vous dites.
Et alors? C'est la vérité.
C'est triste.
Bon, la vérité elle est souvent triste. Bon, ensuite... pour répondre à votre autre question qui m'a un petit peu échappé lors de la réponse, ma première partie de réponse, bon, je répondais à votre question à votre intervention sur les images.
Et je demandais si les risques aujourd'hui, c'était quelque chose que l'on pouvait prévoir.
Alors, on peut prévoir partiellement un certain nombre d'aléas. On sait que normalement, par exemple, pour ce qui est des pluies, des aïgates, des abados, c'est plutôt... en fin octobre, novembre et plutôt au printemps, mars, avril. On peut prévoir grâce à la météo un certain nombre de choses. Par contre, par rapport au risque sismique, bon, on sait qu'il y a des zones qui peuvent être touchées, mais on ne sait pas quand ça le sera. Bon, on sait par rapport au risque volcanique, et encore faut-il hurler, puisque pour le Puy-de-Dôme, il a fallu quand même négocier pendant très longtemps pour que le Puy-de-Dôme soit classé de la même façon que la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion, en termes de risque volcanique. Bon, mais dans un certain nombre de cas, on ne peut pas prévoir. Bon, mais par contre, on peut prévoir des mesures pour combattre l'aléa. Ça, oui. Mais enfin, encore faut-il vouloir y mettre de l'argent.
Mais justement, je ne sais pas, mais il me semblerait que il y a parfois, malheureusement, la main de l'homme qui vient là pour des catastrophes naturelles. Si l'on regarde un petit peu parfois des bâtisses qui sont construites dans des lieux où on sait pertinemment qu'il y aura des catastrophes, parce que il y a rien de prévu, il n'y a pas des ruisseaux, il n'y a pas de ceci. J'ai l'impression que est-ce que ça on y fait attention aujourd'hui? Est-ce qu'on est beaucoup plus attentif ou pas, ou alors c'est le commerce qui passe, qui prend le dessus. Madame Faure ?
On y fait attention, c'est-à-dire que maintenant, on en discute. Pendant longtemps, on n'en a pas discuté. Par exemple, il se trouve qu'aujourd'hui, notre colloque itinérant nous a fait passer par Cuxac. Nous avons pu discuter avec certains responsables municipaux de Cuxac d'Aude, Bon, il est clair que ces lotissements qui ont été faits dans la zone dite des Garrigots, hein, tout le monde savait qu'il s'agissait d'une zone inondable. Tout le monde le savait, puisque, paraît-il, l'un des responsables qui possédait des terres là, l'un des responsables municipaux, a vendu ces terres, c'est devenu des terrains inconstructibles et bon... Voilà. Simplement, il ne s'agit pas d'accuser l'un ou l'autre. Ça s'est fait dans une situation de crise économique de la viticulture. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres.
Et justement, là, madame, excusez-moi, eh bien, est-ce qu'on appelle ça un risque naturel ?
Non, ça n'est pas un risque naturel, c'est justement des décisions humaines, en l'occurrence des zones qui ont été considérées comme constructibles, qui ont mis les hommes qui sont venus ensuite construire leur maison, bâtir en danger. Donc le risque n'est pas naturel. La plaine de l'Aude, c'est une plaine d'inondation, naturellement d'inondation. Ça fait des milliers et des milliers d'années que l'Aude, avant même qu'il y ait des hommes, hein, avant même Totavel, etc., était régulièrement inondée par les eaux descendues des Cévennes, des Corbières, etc. Bon, simplement maintenant, il y a des hommes de plus en plus nombreux. Votre département est très attractif d'un point de vue touristique. Il l'est aussi pour les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, qui ont envie de passer la fin de leur vie au soleil, etc. Donc il y a un besoin de terre, un besoin de foncier habitable. Voilà. Donc les hommes, finalement, ceux qui avaient un pouvoir de décision, ont laissé faire ou ont encouragé même. Parce que lorsqu'on discute avec les maires des communes, ils disent bah « Oui, mais nous, on a envie que notre village se développe. On a envie que nos écoles ne soient pas fermées, etc. » Donc, bref, d'avoir un renouveau de la population.
C'est un risque naturel humain.
Oui, enfin, je ne vais pas dire qu'il est naturel, justement.
L'homme est nature. Je suis désolé. L'homme est nature,
oui. Alors, on peut le voir. On peut le voir.
Inévitablement.
De ce point de vue-là, non, mais c'est un. Les hommes se sont mis en situation de risque. Voilà, en situation de danger.
Oui, il y a des hommes qui sont des risques naturels.
Madame, vous voulez s'exprimer ? J'arrive avec le micro, s'il vous plaît. Je vous prie, pardon.
Je ne suis pas du tout de la région et je voulais savoir comment ça se fait une citadelle comme celle de la Carcassonne, elle est restée telle qu'elle, une des meilleures cités en Europe, avec toutes ces inondations dont vous parlez. Que ça n'a pas bougé, si vous voulez. La cité de Carcassonne, elle n'a pas bougé, elle est restée d'une beauté extraordinaire et que ça n'a pas bougé alors que ça a été tout inondé autour. Comment ça se fait que les gens de cette époque, ils ont pu construire une telle chose à cet endroit-là, inondable,
si vous voulez. Mais non, justement, la citadelle est construite en hauteur. Hein, elle est en hauteur. Et on s'aperçoit que les sites des vieux villages sont sur des zones hors eau, justement. Parce que autrefois, et ça va me permettre de passer la parole à ma voisine, autrefois, les hommes n'étaient pas assurés. La notion même d'assurance n'existait pas. Donc, s'ils s'étaient laissés prendre une fois par une inondation, un glissement de terrain, etc., si leur maison avait été détruite, s'il y avait eu des morts dans leur famille, eh bien, ils allaient se déplacer, essayer de rechercher des endroits beaucoup plus sûrs. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Hein. Et ensuite, de génération en génération, les bons conseils se transmettaient. Non, ne construis surtout pas là, c'est une zone inondable, etc. Ton grand-père, etc. Enfin bon, il y avait une tradition. Alors, c'est un facteur aggravant maintenant, c'est que j'ai parlé de crise viticole et de terres anciennement occupées par des vignes qui avaient été... zone constructible. Et il y a beaucoup de personnes venues, par exemple, du nord de la France, voire de l'Europe, hein, qui sont arrivées ici, qui n'avaient aucune idée de ce risque d'inondation, de ce que c'est que le climat méditerranéen, avec ses abats d'eau qui peuvent être considérables et très denses. au cours de l'automne. Voilà. Alors, je vais passer la parole à ma voisine.
Qui va se présenter, qui
est
l'assurance, oui.
Alors, voilà.
Alors, forcément, on vient vous voir après... Après une catastrophe, on vient vous voir.
Alors, je ne suis pas personnellement assureur, hein, donc si vous avez des requêtes, ce n'est pas la peine de venir me voir. Mais par contre, je suis ingénieure d'études à la mission Risque Naturel, qui est donc une association qui a été créée en 2000, donc suite aux événements de 99. Donc, vous êtes un petit, enfin, ce qui s'est passé dans la région et qui a pu marquer ses habitants a aussi permis une prise de conscience donc de nombreux acteurs, mais également donc des assureurs. Et donc, les deux familles professionnelles de l'assurance, que sont la Fédération française des sociétés d'assurance et le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, ont créé en 2000 cette association qui, en fait, a pour mission d'améliorer la connaissance et la prévention des risques naturels auprès donc des assureurs. Et dans le cadre de cette association, je réalise une thèse sur plus particulièrement sur l'évaluation des plans de prévention des risques sous la direction de Richard Lagagné. Et donc, juste peut-être pour continuer sur cette problématique de l'assurance, donc en France, on a en fait un régime particulier auquel beaucoup d'entre nous sont très attachés et qui, en fait, repose sur deux principes que sont, d'une part, la solidarité entre assurés et, d'autre part, en fait, une extension qui est rendue obligatoire donc de la couverture dommage aux biens. C'est-à-dire que quand vous souscrivez une assurance dommage aux biens, il y a donc qui en soi n'est pas une assurance obligatoire, mais le taux de couverture est important en France. Et donc à partir du moment où vous souscrivez cette assurance pour votre bien, il y a une extension, elle, qui est obligatoire pour les risques naturels. Et le montant de cette surprime CatNat, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, est fixé donc par la réglementation. Donc finalement, il va y avoir après, donc si un événement se passe, la commune peut faire une demande pour être déclarée en état de catastrophe naturelle. Et il va y avoir donc une commission interministérielle qui va examiner la situation et qui va déclarer ou non la commune en état de catastrophe naturelle. Et à partir du moment de ce moment-là, il y a un processus qui est déclenché. Donc vous pouvez faire une demande d'indemnisation auprès de votre assureur. Et si le sinistre est bien mis en relation avec l'événement naturel, il y a une procédure d'indemnisation qui est mise en place. Mais donc, ce système assurantiel permet donc au plus grand nombre d'être assuré contre les catastrophes naturelles et il n'y a pas finalement d'antisélection qui serait due à votre situation géographique. Contrairement à, par exemple, le cas assurantiel anglais, où là, c'est une assurance de marché. Et donc, il y a certains administrés qui n'arrivent pas à s'assurer puisque leur bien est considéré comme inassurable parce que trop exposé.
Est-ce que je peux supposer que dans votre fonction, vous essayez d'appliquer les principes de prévention et comment ça se passe auprès des mairies, auprès des particuliers?
Alors en fait, l'assureur peut avoir une implication dans la prévention à deux titres, soit dans sa relation, dans la relation contractuelle que chaque assureur a avec son assuré. Donc effectivement, en fait, le régime CatNat prévoit deux volets. C'est-à-dire que un sinistre peut être indemnisé si jamais l'origine est due à une intensité anormale d'un phénomène naturel, mais aussi la loi prévoit que l'indemnisation n'a lieu que si l'ensemble des mesures qui doivent être prises ont bien été prises, ou bien si les mesures n'étaient pas applicables, ne pouvaient pas être prises. Donc finalement, il y a bien un volet prévention. C'est-à-dire qu'on accepte effectivement une indemnisation, mais en contrepartie d'un effort de prévention. Alors, effectivement, dans sa relation qu'à l'assureur avec son assuré, il pourra de temps en temps aller se rendre sur place et regarder si effectivement les mesures de prévention ont bien été prises pour s'assurer que finalement le risque n'est pas qu'il s'agit bien d'un risque, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir systématiquement un sinistre puisque aucune mesure n'a été prise. Donc ça c'est une fonction de prévention que peut avoir l'assureur dans sa relation avec l'assuré. Après, il y a une deuxième relation que l'assureur entretient avec les pouvoirs publics, donc via les familles professionnelles. Et donc, c'est une des fonctions auxquelles contribue la mission risque naturel, c'est de réaliser donc, des études qui permettent de mettre à disposition des familles professionnelles une connaissance de l'ensemble des mesures de prévention qui sont mises en place par les pouvoirs publics pour essayer justement d'inciter à encore plus de prévention. Donc l'outil phare pour les assurances, c'est le plan de prévention des risques, qui est donc l'outil qui fait le lien entre prévention et indemnisation. Puisqu'il faut savoir que si jamais il n'y a pas de PPR prescrit, au bout du troisième arrêté catastrophe naturelle, il peut y avoir une modulation de la franchise. Donc après, bon, si le PPR est prescrit, il y a arrêt de modulation de la franchise, mais il doit être approuvé dans les 4 ans. Si au bout de 4 ans, il n'est toujours pas approuvé, la modulation de franchise s'applique de nouveau. Donc là, c'est vrai que cet outil-là, bien que ce ne soit pas le seul outil de la gestion des risques d'inondation, mais il fait bien le lien entre prévention et indemnisation. Et donc, une des fonctions de prévention de l'assureur, c'est justement d'aller étudier un petit peu ces plans de prévention des risques, de regarder où ils sont mis en place sur les territoires et s'ils sont bien mis en place sur les territoires les plus exposés.
Merci bien. Peut-être des questions, des...
Oui, c'est très agréable d'avoir des précisions au niveau de l'assurance, parce que moi-même, je suis un réfugié climatique, et dans la vie, quand on remonte dans l'histoire des familles, il faut se souvenir des victimes et honneur à leur mémoire, et justement tout ce qui est fait pour aller vers plus de sécurité. Il y a le risque de furtivité, c'est-à-dire, dans une catastrophe, le temps est là, il est furtif, la catastrophe arrive, ça va durer dans un temps de laps très court. Par rapport au risque, il y a une durabilité, c'est-à-dire à ce moment-là, j'ai remarqué que dans la durabilité, il va y avoir une gestion de cette durabilité par l'assureur qui prend en compte aussi bien lorsque le risque a été furtif et qu'il faut agir. À ce moment-là, bon, ben, évidemment, il y a les pouvoirs publics avec la préfecture, les pompiers et tous les services qui sont là pour répondre aux besoins des populations immédiatement, et y compris à l'étranger, avec la solidarité, comme j'étais en Guadeloupe, donc Bernard Iacarini, j'étais personne auprès de la préfecture au niveau du développement durable. Et on s'est déplacé à la Barbade avec l'ONU. Justement, bon, il y a l'eau, le vent, le feu, la terre. C'est clair. L'eau, ça peut être des inondations, ça peut être une lame de tsunami par la mer, ça peut être les rivières. Or, actuellement, c'est ce que je voulais vous demander, les Hollandais sont en train d'abandonner donc ce qu'on a au niveau de nos informations ici par rapport à l'Aude. Les Hollandais sont en train d'abandonner 5 km de leur côte parce qu'ils ne vont pas lutter contre la montée des eaux. C'est clairement et scientifiquement établi. Il faut savoir que les sociétés de spéculation, de climatologie, cotent en bourse. Et par les prévisions de météo, on a de la spéculation et les céréaliers font de la spéculation sur les prévisions météo qui sont donc tout à fait, qui ont une prédictibilité quand même tout à fait intéressante pour les spéculateurs. Donc on n'est pas dans la spéculation, on est dans les protections des personnes. Et donc ça rejoint un petit peu ce que je vous demandais, c'est-à-dire que les Hollandais ont décidé d'abandonner vis-à-vis de la montée des eaux 5 km de leur côte et de reconstruire les polders plus près, mais il n'y a pas de maison. Ah, or, le problème, c'est que moi, étant près des côtes, je me suis dégagé très vite. Il y a des missions scientifiques qui sont venues au Barcarès, à Le Cap. On a eu une carte de la montée des eaux jusqu'à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Les gens sont prévenus, ça y est. Oui, mais il y a des politiques, on ne fait rien de voir, qui ont pris des décisions d'installer des gens. Il y a des hôtels, il y a des Saint-Cyprien, c'est une ville, mais alors qu'il va être complètement inondé, Canet va redevenir une île. Qui va indemniser de cette... Quand ça va se savoir, parce que en plus, il y a la question, l'émotion, il y a le côté émotif. Quand est-ce que les gens vont prendre vraiment conscience qu'on y est, que l'eau va monter? Elle ne va pas monter comme un tsunami au Barcarès. L'eau est en train de grignoter comme ça la plage, comme un château de cartes. Et quand c'est plat, ça s'écroule
ça s'écroule, tout simplement. Les besoins en sable pour le Barcarès ont été faits par les sociétés d'experts, un besoin de 1 million de tonnes de sable. L'Aude, donc on a ce danger-là sur le Cap, c'est aussi l'Aude, hein, de ce besoin de tonnes de sable de 1 million rien que pour la commune du Barcarès, et le Languedoc-Roussillon ne peut en fournir que 100 000. Donc 900 000 ont été pris à l'intérieur des terres, qui ont été déversés pour essayer de sauver une partie du Barcarès parce que l'eau continue de monter. Il faut voir, j'y habitais, hein, je me suis vite dégagé. À Collioure, des rochers l'année dernière ont été projetés, et ça n'a jamais arrivé sur les habitations qui étaient en bord du littoral, donc c'est toujours le Languedoc-Roussillon. Donc on a ces risques de la mer qui sont là. Et le risque supplémentaire, c'est que les Hollandais sont des très grands spécialistes, ils arrivent à arrêter la montée des eaux. Mais ils n'arrivent pas à arrêter la montée des eaux dans les rivières, notamment l'Aude et tous les grands fleuves à delta. Comment arrêter l'eau qui va monter et qui va se déverser à l'intérieur des terres par l'intermédiaire de ces fleuves? Donc la Carcassonne en plus est concernée, et donc est bel et bien concernée par cette montée des eaux, bien qu'on ne soit pas au bord de la mer. Et lorsque quelqu'un achète à Carcassonne, vous remarquerez qu'on vous fait signer au notaire un risque, justement, ce qui concerne les risques naturels. On vous fait signer que vous achetez en conscience que Carcassonne est en zone inondable, y compris le palais de justice, pas la cité, bien sûr, mais toute la cité de Carcassonne est inondable. Donc, je voulais vous demander, c'est bien beau. On est, en tant que citoyen, tout à fait conscient des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics. Et puis, en arrivant dans l'Aude, venant de la Guadeloupe, j'ai appris, en plus, qu'il y avait du plutonium du côté de Narbonne. Donc, c'était noyer le poisson dans l'eau. Qu'il y avait des grosses mines d'arsenic qui étaient du côté de Villargaillante et que ça permettait, lorsqu'il y avait des inondations, de noyer l'arsenic dans l'eau. Donc, on voit cette imbrication entre les risques naturels, la catastrophe, des anciennes habitudes de pollueurs qui n'étaient vraiment pas prises en compte avant. Il était naturel de diluer la pollution dans l'eau, en fait, alors qu'elle se reconcentre dans la chaîne trophique et arrive à l'homme à dose accidentelle, voire mortelle. Donc toute cette pollution industrielle, des pesticides, des rejets des mines d'arsenic, de l'uranium à Narbonne, ici Carcassonne, les bords de l'Aude qui sont menacés par cela. C'est vrai, heureusement qu'on a un beau pays, qu'on mange bien, qu'on boit bien pour surmonter le moral. Mais est-ce qu'on ne danse pas sur un volcan? Et est-ce que ces risques nouveaux sont pris en compte?
Est-ce que ces risques nouveaux sont pris en compte? Est-ce qu'on parle des risques technologiques? Non, je comprends bien. Je connais un peu. Mais là, j'ai à côté de moi deux spécialistes de salsing. En revanche, je vois dans la salle des spécialistes de la remontée du niveau des mers, hein, qui se sont exprimés cet après-midi. Nous avons une très belle séance sur ces questions-là, et je pense qu'on pourrait peut-être leur donner la parole. Alors, Paul, Brice, Anselme, et puis Gérard Beltrando aussi.
Donc oui, Brice Anselme, Université Paris 1. Donc nous, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille ici dans la région. Pardon. Notamment sur la Franquie, puis Port Le Cat. Voilà, oui. Donc on est venu à Le Cat. On était encore là en juin dernier. Alors quand vous dites la population est au courant, j'en suis pas si sûr. Parce que quand on arrive, nous, sur place, les gens viennent nous aborder pour nous demander ce qu'on fait. Et nous disent tout de suite, ça serait bien d'avertir les politiques, parce que on ne sait jamais ce qu'il faut faire quand il y a des inondations. Il y en a eu en juin dernier, là, quand on y était, dès le premier jour, on a été accosté par une dame charmante qui nous a vraiment dit qu'il y avait eu des inondations. Alors je ne sais plus si tu te rappelles, Paul, la date. Au niveau de Port-le-Cat, en fait, l'immeuble nous a dit que c'était une île. C'était devenu une île, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, on attendait des hélicoptères, enfin, personne n'est venu. C'était en 2003, oui. Donc je ne suis pas si certain que ça, que les gens soient bien sensibilisés, en fait, à tous ces nouveaux risques. Et puis l'autre souci, mais c'est ce que soulevait mon collègue, là, Paul Durand, cet après-midi lors du colloque, c'est que... Alors nous-mêmes, on fournit nos résultats, bien sûr, aux communes, tout le temps. Mais ce qui est délicat, c'est que, comme vous le disiez, c'est un pays très attrayant. Et c'est assez difficile de dire aux politiques que, oui, la commune est soumise très fortement à des risques de submersion. Nous, je me souviens, il y a 4 ans qu'on est arrivé, on s'est fait presque insulter en disant « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? Il n'y a absolument aucun risque de submersion. » C'est ce qu'on nous dit quand on, quand on arrive sur place, quoi. Alors, effectivement, il y a quelques personnes qui commencent à quitter Port-le-Cat, mais c'est pas général, quoi.
Mais vous confirmez ça ? Jusqu'à Saint-Laurent-la-Salanque. Nous avons une carte dans la presse, brièvement, pas monopoliser l'après-midi. Alors, les scientifiques ont publié une carte dans la semaine du Roussillon. Cette carte montant une double page hein, dans la semaine du Roussillon, comme il existe la semaine du Minervois. Et quand j'ai eu cette carte, je l'ai découpée, puis je vous l'ai fournie, je vous l'ai apportée. C'est un des moyens de sensibilisation du public. Et j'espère qu'il y en aura d'autres.
Oui, donc, Paul Durand, Université Paris 1. Donc, oui, sur la carte, moi, je me souviens, on s'était rencontrés en juin, me semble-t-il. C'était un petit peu exagérer le phénomène pour faire prendre conscience aux populations, parce que l'eau qui monte jusqu'à Saint-Laurent-de-la-Salanque, c'est peut-être un peu exagéré, du moins dans un temps... Dans un temps un petit peu court, comme ça. Alors après, le niveau de la mer monte, donc au niveau mondial, et encore pas partout, hein, vous avez... Ça dépend des endroits. Bon, sur la Méditerranée, ici, dans le golfe du Lion, on n'a pas trop d'instruments de mesure, donc on ne sait pas trop exactement ce qu'il en est. Bon, toujours est-il que, bon, il y a des risques liés aux tempêtes, enfin, il y a un aléa tempête qui génère des risques parce qu'il y a des enjeux importants. Et moi, ce qui me semble important, effectivement, c'est que c'est encore un peu difficile d'en parler, même s'il y a des progrès qui sont faits, il y a des PPR qui ont été prescrits, il y a des PPR qui ont été adoptés, mais c'est encore un peu difficile de parler de risque submersion. Par exemple, pour prendre l'exemple de la commune de Leucate, c'est un sujet qui est très sensible. Ils reconnaissent tout à fait qu'il y a un risque incendie de forêt, ils reconnaissent tout à fait qu'il va y avoir, c'est surtout le risque incendie d'ailleurs auquel ils s'attachaient, bon. Mais le risque submersion marine, les enjeux sont tels encore, surtout à Port-le-Cat, que c'est quelque chose, je dirais, qu'on a malheureusement encore un peu tendance à minimiser. Alors, il ne faut pas exagérer, l'eau ne va pas monter de 3 mètres, elle ne va pas monter d'un mètre, elle ne va pas monter de 50 cm même en l'espace de quelques années. Mais c'est un risque réel, effectivement.
Parce que des gens qui investissent leur patrimoine pour leurs enfants et leurs petits-enfants, compte tenu de l'échelle, même à 5 ans près, ou à 10 ans près.
On ne sait pas, par rapport à l'élévation du niveau de la mer, vous savez, les taux actuels au XXe siècle, c'est 1,3 mm la moyenne mondiale, qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. Bon. Non, mais je vous donne le chiffre, ce qui fait 13 cm par siècle. Bon, ce serait plus au 21e siècle, mais c'est très variable selon les endroits. Mais c'est une histoire de centimètres. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des articles récents qui sont sortis cet été dans Science, par exemple, par des climatologues allemands tout à fait respectés, respectables, qui parlent de monter d'ici 2100 de 90 à 1,45 m. Bon. Mais en fait, on ne sait pas vraiment. C'est très compliqué à modéliser tout ça. Bon. Donc, il y a la question de l'instabilité des calottes glaciaires. Donc, on n'intègre pas vraiment... Donc, oui, mais on sait, c'est très difficile de prévoir. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a une exposition certaine de beaucoup d'enjeux, donc, à des risques, tout simplement, des risques tempêtes qui ne sont pas liés spécialement à une montée des eaux. C'est...
Le Mont Gerbaud a perdu 70% des glaces et les sociétés d'assurance suisses ont demandé à leur filiale, et les sociétés d'assurance suisses ont demandé à leur filiale de ne plus investir au-dessous de 1500 mètres, il n'y aura plus de glace, ce sera plus rentable.
Vous voulez dire que quelque part, il n'y a plus de patrimoine possible ? Non, mais... Il n'y a plus de patrimoine.
Comment on noie le poisson dans l'eau ? Il y a des mesures claires qui sont prises, et quand nous, citoyens, on essaie d'être dans le préventif, on a... voilà.
Vous êtes d'accord, mesdames, messieurs ?
Je vais vous répondre. Le niveau de la mer va monter. C'est inévitable. Il va monter à cause des propriétés thermiques de l'eau. Alors, il va monter de combien ? Il va monter, et je ne me trompe pas, et je n'ai pas bu d'alcool ce soir, il va monter de moins 15 cm, donc descendre, jusqu'à 1,50 m. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la tendance générale planétaire, elle est, les experts du GIEC et les modèles sont relativement, on peut leur donner un niveau de confiance acceptable, donnent des valeurs qui vont entre 15 cm et 55 cm avec une moyenne autour de 40 cm. C'est la tendance planétaire. À l'échelle de chaque partie de l'océan, il y a une variation. Alors, ce chiffre-là est d'ailleurs remis en question depuis 2 ans, comme vient de le signaler mon collègue Paul. Je l'expliquerai après pourquoi. Et à l'échelon régional, ça peut diminuer. Alors, on sait quand même pas mal de choses. On a des données avec les nouveaux satellites qui donnent des informations précises, de l'ordre de... On peut faire des moyennes à l'ordre de quelques millimètres. Par exemple, si l'on regarde la Méditerranée depuis qu'on a des satellites, depuis 1993, eh bien, on a le sud de l'Italie où le niveau a baissé d'à peu près 10 cm. On a la Méditerranée orientale, en gros, entre la Grèce et la Turquie, où le niveau a augmenté d'à peu près 30-40 cm. Ce qu'on ne sait pas à ce niveau-là, c'est comment va se répartir l'énergie entre les diverses parties de l'océan et donc les courantologies, les courants marins de surface. Ça, on ne le sait pas, parce que ça dépend de facteurs qui sont liés à l'évaporation. Plus il y a d'évaporation, plus régionalement le niveau a baissé. C'est fonction de la pluie et c'est fonction du taux de sel qu'il y a dans l'eau, qui conditionne la manière dont l'eau peut s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan. Ce qu'il faut rajouter, et pour aller un peu dans le sens qu'ont dit mes deux collègues, c'est que depuis 2 ans, on constate une accélération. Et c'est pour ça que les phénomènes climatiques ne sont pas linéaires et que personne ne pourra vous répondre plus précisément. Les phénomènes climatiques n'étant pas linéaires, nous avons une accélération de la fonte du Groenland, de la masse glaciaire. C'est là que l'essentiel se passe, plus que sur l'Antarctique, plus que sur l'hémisphère sud de l'Antarctique. Et donc, partant de là, depuis 2 ans, les réévaluations qui sont faites par des experts qui ne sont pas encore une conclusion officielle, donnent une élévation moyenne de la planète d'environ 1,20 m dans un scénario moyen d'évolution. Comment peut-on vous répondre à la question? Personne ne peut vous répondre, monsieur. Tout simplement parce qu'on ne sait pas combien il y aura d'habitants en 2100, quelle quantité de carbone les uns et les autres vont consommer, et comment va réagir le système dans ce qu'on ne sait pas modéliser. Mais ce qui est certain, c'est que les scientifiques ont le devoir et le font, la responsabilité ne vient pas d'eux, de vous dire que la probabilité que le niveau de la mer augmente est très forte. Si localement il n'augmente pas, ça ne sera pas leur responsabilité. Simplement, il faut qu'on vous dise qu'il y a une variabilité qui va croissante dans le système climatique due aux actions de l'homme. Et ça, personne ne peut vous dire dans quel sens ça va aller pour la petite pavillon de Palais-Valls et Flots ou de n'importe quelle partie, la Tunisie, je vois mon voisin à Sfax. C'est pareil, on ne peut pas vous dire localement à quel niveau. Mais ça va augmenter. Alors, dernier élément, parce qu'on en a très peu parlé, les perturbations, les tempêtes méditerranéennes, eh bien, là encore, ce sont des phénomènes qui, la plupart du temps, se produisent à des échelles plus fines que les mailles des modèles qui prévoient le changement climatique. Et là, on ne sait pas faire, on est incapable, d'ailleurs, la météo a beaucoup de difficultés, même à l'échelle de quelques jours, à prévoir les événements. Alors, prévoir la fréquence des tempêtes dans 50 ou 100 ans, ça, c'est un phénomène très difficile. Globalement, je le disais hier soir, ailleurs, eh bien, on prévoit, si vous voulez, ce que donnent la plupart des modèles les plus fiables aujourd'hui, que ce soit les modèles français du CNRM ou le modèle anglais du Atlas Center, prévoit une diminution du nombre et de l'intensité des tempêtes sur la Méditerranée. Une diminution de 8%. Et moi, je n'ose même pas le dire aux gens. Parce que 8%, ça peut aussi vouloir dire que dans 10 ans, vous allez avoir une tempête qui sera d'une pharaonique qui va tout détruire sur la côte, y compris tous les aménagements que vous avez faits. Donc, il vaut mieux ne pas tenir compte. Et l'intelligence des scientifiques, à un moment donné, c'est de ne pas dire tout dans l'intérêt collectif. Parce que si on annonce un chiffre, je vous annonce ce soir moins 8% de tempête, eh bien, vous allez peut-être l'intégrer dans votre mémoire et vous allez peut-être acheter le beau pavillon en bord de plage pour avoir les pieds dans l'eau. Et non, mais vous, peut-être pas, bien entendu, vu votre discours, mais d'autres personnes le feront et ils peuvent très bien demain avoir une tempête comme on n'en a pas vu depuis 400 ou 500 ans dans la région.
Merci. Je vais donner la parole à madame qui l'a demandé depuis tout à l'heure. Pardon, monsieur.
Bonjour, moi je m'appelle donc Christine Stemmer. Bon, j'interviens en tant un peu que prof de biologie en fait. Bon, pendant que j'ai été jusqu'à il y a un an. À l'époque, donc, et encore maintenant, on enseigne aux élèves les variations du niveau de la mer au cours de l'ère quaternaire. Et donc, je voudrais rappeler, la plupart des gens doivent le savoir tout de même, mais qu'au cours du quaternaire, il y a eu 21 cycles de manière alternative entre les réchauffements et les refroidissements. Et que, en ce moment, on était plutôt vers un refroidissement, c'est-à-dire on vient de passer le pic de réchauffement, normalement, si on regarde ces cycles. Et donc dernièrement, la dernière fois où il a fait aussi chaud que maintenant, il a quand même fait pas mal de choses. C'était, si je ne me trompe pas exactement au niveau des dates, il y a 115-120 000 ans, il a fait, le niveau de la mer était bien monté, puisque à l'époque, il était tout au-dessus de tous nos étangs. L'étang de la Palme, les, tout ça, enfin le rivage venait contre les falaises à ce moment-là. Avec des professeurs de géologie qui s'y connaissaient, j'y suis allée sur le terrain et on voit dans les falaises, le long de camping, tout ça, les trous entraînés dans le calcaire par les embruns. Et, bon, donc je voulais rappeler que le niveau de la mer, je crois, était de 5 mètres plus haut. Je suis plus certaine exactement des chiffres. Il y a 115 000 ans et que y a pas eu pourtant toutes les incidences humaines à cette époque-là et que naturellement le niveau de la mer dans ces zones-là était vraiment beaucoup plus haute. Donc c'est vrai que toute la zone des étangs, elle est quand même excessivement vulnérable par rapport aux variations du niveau de la mer. Voilà.
Merci. Madame.
Oui, je voulais. Je pense que madame a tout à fait raison. Hein. Effectivement, on retrouve des niveaux de plage avec des lithophages, c'est-à-dire ces organismes qui perforent les rochers. Hein. Donc on peut retrouver des niveaux anciens marins perchés. Alors il y a un paramètre dont on n'a pas encore tenu compte dans notre discussion, c'est le rôle soit du soulèvement lié à la tectonique. Hein, c'est le cas, par exemple, pourquoi en Italie du Sud, on n'observe pas d'élévation du niveau de la mer. C'est tout simplement le continent qui, lui, se soulève. Donc les éléments repères vont se trouver, au contraire, de plus en plus haut, des anciennes lignes de rivage. En revanche, on a évoqué le cas des Pays-Bas, mais on pourrait évoquer le cas de Venise. Ce sont des zones qui sont naturellement subsidentes, comme la plaine de l'Aude, d'ailleurs. Hein, elle est naturellement subsidente. Par ailleurs, si vous rajoutez, je ne sais pas pour la plaine de l'Aude, mais c'est certain pour Venise et pour les Pays-Bas, les pompages pour l'eau, pour la nappe phréatique ou pour parfois, enfin pour des raisons de consommation individuelle, voire industrielle, c'est le cas de Venise avec le gros centre industriel de Mestre, eh bien, vous avez là une compaction des sédiments qui augmente le phénomène de subsidence tectonique. Donc, vous voyez, vous avez une aggravation qui est liée aux activités humaines. Alors, si vous rajoutez la tendance générale dont on vient de parler de l'élévation du niveau des mers, bon, évidemment, il faut cumuler tout ça. C'est ce qui explique pourquoi, à certains endroits, on va avoir une élévation qui paraît énorme et à d'autres, parfois, une absence d'élévation du niveau des mers. Voilà.
Et justement, dans l'intervention humaine, dans ce sens-là, les rivières qui ont été canalisées doivent apporter aussi un rôle assez peu favorable.
Alors, les rivières canalisées, en fait, ce qui se passe, c'est si on entrave l'étalement des cours d'eau dans leur plaine d'inondation, ça veut dire que les sédiments qu'ils transportent, les limons qu'ils transportent, ne vont pas être étalés sur la plaine et colmater la plaine, mais au contraire arriver directement vers la mer. Donc effectivement, c'est un élément en moins qui renforce l'inondabilité de la plaine. Et on peut dire que c'est un élément, je ne sais pas en quelle proportion ça peut jouer, mais un élément aggravant de l'inondabilité de la plaine de l'Aude.
Vous voulez intervenir ?
Oui, un petit peu. Bon, il faut quand même tenir compte de la place de l'espèce humaine. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. Soit vous voulez que l'espèce humaine continue son expansion actuelle, qui a toujours été donc dans l'anthropisation, dans la colonisation, en quelque sorte, d'un certain nombre de territoires. Bon. Soit on dit qu'on laisse de la place à autre chose que l'espèce humaine. Bon, que ce soit du végétal, de l'animal ou, entre guillemets, de la nature au sens très large. Et là, on va vers la reconduction de champs d'expansion des crues, que maintenant on appelle espace de liberté. On va vers la destruction des digues, ce que font en partie les Allemands. Bon, mais à ce moment-là, il faut l'admettre et poser ça comme principe, ce qui veut dire donc changer de mentalité. Bon. Alors là vont intervenir en partie les assurances, puisque en fait, c'est la règle classique, hein, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Bon, mademoiselle Gérin doit le savoir, combien de permis de construire en dérogation depuis 10 ans en Languedoc-Roussillon ?
poser une colle.
C'est une grosse question. Eh bien, plusieurs dizaines de milliers de permis de construire. Bon, que ce soit par rapport à la zone inondable ou par rapport à de la zone soumise à la sécheresse, puisque également les assurances prennent en compte la sécheresse. Parce que le risque sécheresse, ça fait longtemps qu'il est intégré, en particulier dans les zones d'argile. Bon, alors il touche des biens, immeubles, en France, peu de morts. Ailleurs dans le monde, le risque sécheresse, eh bien désolé, c'est un risque, et important. Bon, c'est un aléa, en tout cas, qui est important et qui tue. Autant que l'inondation, globalement, si on réfléchit à l'échelle mondiale. À l'échelle de la France, certes, ça ne tue pas parce qu'on s'est distribué des bouteilles d'eau potable, sauf lorsqu'on a la canicule, sauf lorsque ça se passe au mois d'août et que les services d'urgence ne sont pas préparés à ça. Bon. Mais au niveau des assurances, ça a coûté très cher aux assurances, et ça aussi, c'est cartographié, et là aussi, on a du PPR, mais là aussi, on a des dérogations. Il y a encore des gens qui construisent en zone argileuse. Et qui construisent sans tout à fait suivre les prescriptions qui sont adoptées, parce que pour le risque sécheresse, on a des prescriptions qui sont les mêmes, enfin qui sont pas tout à fait, c'est pas les mêmes, mais enfin on a des règles, hein, des normes qui ont été posées, comme pour le risque inondation, comme pour le risque sismique, etc., etc. Faut-il encore vouloir les suivre ?
Les risques pour la sécheresse sont pas obligatoires, elles sont pas opposables. Ce sont des recommandations, en fait. Alors que, bon, pour l'inondation, ce sont des prescriptions obligatoires. Théoriquement obligatoires.
Très rapide, peut-être.
Quand je suis allé à Vézenobre, donc le Gardon, donc, qui est à côté, le fleuve a carrément emporté justement cette rivière qui était normalement, selon les conseils de la DDE, j'entends autre chose, par les scientifiques, mais il s'agit dans l'urgence toujours de border et de mettre du béton. Ce béton a servi de bélier à défoncer les maisons. En revanche, tout ce qui était haie et qui a été arraché, toujours sur les conseils de la DDE et de la DDA pour le remembrement, donc ils ne sont pas là, mais je pense qu'en tant que citoyen, il faut avoir ça en tête et agir dans les mois et dans la semaine qui arrive, j'espère. Là où étaient les haies, ils ont retenu les troncs d'arbres et tout ce qui était haies et remaillage du tissu rural avec les haies. Donc il y a des moyens pour ça, de nouveaux moyens à dégager. Si l'éco-citoyen justement est vigilant et fait faire justement aux politiques ce qu'ils ne veulent pas faire, et aux techniciens inamovibles qui sont pas élus mais qui sont dans les bureaux et qui sont avec la volonté de justement d'aller vers une croissance, de tout arracher les haies. Et donc ces haies avaient filtré et avaient empêché les troncs d'arbres d'aller contre les maisons. Il y a eu quand même des destructions massives dans le Gard, notamment j'étais sur Vézenobre, et en discutant avec les entreprises de travaux publics, ils ont du travail pour 20 ans. Pour 20 ans. Selon les carnets de commandes, tout est rempli. Donc on a là une création monétaire, parce que ça a été un petit peu abordé, c'est-à-dire ça coûte cher, mais comment se fait-il que ce sont les sociétés d'assurance que lorsque l'État est en faillite, il lance un emprunt et les sociétés d'assurance ont largement de quoi financer justement les emprunts d'État. Donc on voit que c'est très difficile en ce qui concerne les citoyens en zone régionale et locale de pouvoir réclamer des moyens supplémentaires. On en discutait avec le capitaine des pompiers aussi, dans l'urgence de réclamer ces moyens. Et alors que ces moyens, lorsque les sociétés d'assurance et lorsque les banques sont en faillite, on crée immédiatement, pas un milliard, pas deux milliards, mais des centaines de milliards. Donc il s'agit d'être vigilant dans les semaines à venir, en effet, en ce qui concerne la replantation des haies, le remaillage du tissu rural, faire que justement les mauvaises et les anciennes habitudes des techniciens qui sont auprès des maires et auprès des conseils généraux, grâce à vous, messieurs les scientifiques, si vous savez justement jusqu'où aller ou ne pas aller, pour que nous, citoyens, nous puissions, avec vos indications, aller en tant que citoyens responsables pour suivre dans les années à venir, justement, ce qui fait que tout n'est pas fragmenté. On l'a vu pour le Gardon, peut-être pour l'Aude, on le verra. Est-ce qu'il y a actuellement des plans de replantation des haies autour des cours d'eau à risque et dans les communes, des mises en place, au lieu de me parler de permis de construire, j'aurais aimé savoir s'il y avait dans l'Aude actuellement, en amont ou en aval, des zones inondables, ce qu'on appelle des délestages d'eau
Oui, bon, enfin, de zones d'expansion des crues.
Voilà, d'expansion des fonds.
Oui, je pense que, bon, il existe une structure qui est tout à fait originale et pionnière, recouvre, qui gère l'ensemble du bassin versant de l'Aude, que l'on appelle le SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et de rivières, qui regroupe tous les syndicats de bassin de l'Aude et de ses affluents, et qui... Pardon ? Depuis combien de temps ? Ben depuis une dizaine d'années. Pas tout à fait, mais bon, presque. 2002. Mais qui joue un rôle très important parce qu'il y a des techniciens de bassin qui se réunissent entre eux, qui discutent entre eux, qui échangent leurs expériences. Et puisque vous posez une question sur l'utilisation de la couverture végétale comme moyen de lutte pour les inondations, eh bien, il n'y a qu'à prendre l'exemple des bassins de Clamousse et Orbiel, où là, le technicien de rivière, bon, c'est une zone qui n'est pas encore très urbanisée dans sa partie amont et moyenne, et qui utilise justement les ressources biologiques, moins coûteuses que des mesures, ce qu'on appelle structurelles, construction de digues, etc., pour freiner les eaux. L'idée étant de laisser les eaux s'étaler là où il n'y a pas d'enjeu, pas de population, pas d'habitation, etc., et accélérer l'eau au passage des villages pour éviter les inondations. Mais après, il faut lui redonner une zone d'expansion pour casser l'énergie et que pour le village suivant, le risque soit moindre. Voilà, non, il y a une véritable réflexion, et je pense que Christian Magro...
Oui.
Mais si. Enfin, mais la mise en pratique va de pair avec la réflexion.
On peut aller 10 ans en arrière, savoir ce qui s'est passé à l'Aurodorte pour mieux comprendre comment nous en sommes aujourd'hui à des préventions. Vous êtes, je vous rappelle, élu aussi à l'Aurodorte. Donc vous avez certainement suivi, même si vous n'étiez pas dans le département à ce moment-là, vous avez pu suivre un petit peu ce qui s'est passé. Vous pouvez nous dire exactement, on sait pourquoi l'Aurodorte a été sinistrée et comment vous pouvez nous en parler, et puis peut-être parler des préventions qu'il y a aujourd'hui.
Bon, je vais faire l'élu de service ce soir, mais quand je parle d'inondation, je mets un peu de poésie. Je cite souvent un vers de Paul Éluard qui est « Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses ». C'est bien, ça donne du sens, ce terme-là. Alors quand je dis la société, en fait, elle oublie nos métamorphoses, on oublie l'inondation, on parle souvent de l'État, les politiques, les techniciens, les experts. Moi, je défends pas l'élu, c'est pas la question, mais le droit rural, quand même, indique que le riverain est propriétaire jusqu'à la moitié de la rivière. Auparavant, il y avait une gestion d'entretien de la rivière. Le SMAR s'est mis en place, et pour revenir à 99, ce qui s'est passé un petit peu partout ailleurs dans l'Aude, où il y a eu 27 ponts emportés, ils ont été emportés parce qu'il y a un phénomène d'embâcle, c'est-à-dire que ce sont des arbres morts qui sont retrouvés coincés par les ponts, donc pression, effet de vague sur les villages en aval, par exemple Luxor-Orbieu, par exemple. Donc la globalité, donc ça a été mis en place en 2002 par le SMAR, qui a raisonné en termes de gestion de bassins versants, où il y a de l'entretien de la ripisylve tous les 3 ans, un passage régulier. Alors, la puissance publique, là, quand même, moi, je veux bien entendre le discours du citoyen, que je suis également, c'est que on se substitue, quand même, c'est l'argent public qui se substitue à l'entretien que devrait effectuer le propriétaire privé, auquel appartiennent les berges. Bon. Ensuite, sur la Redorte, ce qui est arrivé, donc, effectivement, on est, si vous connaissez un petit peu le Minervois, nous sommes dans la plaine du Minervois, le Rivassel part de la Montagne Noire, donc les Spinacières, c'est tout. Donc en 99, ben, c'est vrai, qu'il n'y avait pas cette gestion de la ripisylve. Ça fait un phénomène d'embâcle à la Redorte. Il n'y avait pas de zone d'expansion de crues naturelles que maintenant on appelle l'espace de liberté. Bon. Alors, les moyens, la déprise agricole avec la crise de la viticulture fait que, c'est vrai qu'il y a encore 15-20 ans, on raisonnait en termes de grosses structures, des barrages ou encore récemment des pièges à embâcle. Voilà. Et bien, la réflexion au syndicat du bassin de l'Argent Double, c'est que ben, on va se servir de cette déprise agricole pour peut-être essayer d'employer des méthodes douces, c'est-à-dire de dissiper l'énergie de l'inondation. Donc oui, il y a cette réflexion qui est mise en œuvre. Alors ça prend du temps, effectivement. Ça prend du temps. Ça fait 10 ans que 99 est passé. Je ne défends pas le SMAR, ce n'est pas la question, mais le travail a été mis en place. Il est reconnu nationalement. C'est assez exceptionnel comme gestion des inondations. Alors c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais on sait que le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Donc il faut gérer au quotidien. Un autre point, c'est la sensibilisation. L'Aude accueille 4500 nouveaux habitants chaque année. Voilà, c'est un fait. Pour avoir fait les enquêtes dans les basses plaines de l'Aude, hier je l'ai diffusé à la Redorte, mais si on n'entend pas le son, c'était une personne voilà, qui a filmé l'inondation dans la plaine des Garrigaux, hein, l'arrivée de l'eau brutale. Des habitants sont arrivés de Paris, des Parisiens, qui avaient entendu parler, qui ont acheté, qui avaient entendu parler de l'inondation. Oui, oui, on l'a vu à la télé, etc. Et donc on leur a diffusé cette cassette. Voilà. Et les gens sont restés muets. Ils ont dit, si on avait vu ça, on n'aurait pas acheté. Donc voilà, ça pose la question de la connaissance, la perception de l'inondation. Alors la politique du SMAR, j'ai lu dans la presse que dans les mois à venir, ils allaient poser 800 repères de crues. Voilà. Donc on va l'afficher aux nouveaux arrivants et aux anciens aussi, hein, aux audois de source. Je peux faire la transition avec Frédéric, si tu veux rajouter quelque chose.
Oui, il faut relativiser quand même. Allons, Christian, tu sais très bien, toutes les enquêtes de psychosociaux l'ont démontré, que dans un premier temps, le prix des maisons baisse, et dans un deuxième temps, le prix des maisons dans zone rouge monte, souvent. Pourquoi ? Parce que les gens achètent, à ce moment-là, de la tranquillité. Ils achètent la maison en faisant le pari que pendant 20 ans ou 30 ans, ils n'auront pas d'inondation, et ils sont sûrs que rien ne se va se construire autour. Il y a des tas d'enquêtes qui ont été menées dans ce domaine-là et qui le démontrent. Donc, il y a de l'ambiguïté. Bon, alors là, on parle du risque inondation, mais il y a bien d'autres risques. Bon, prenons le risque avalanche. Bon, et là aussi, la règle du silence qui a été démontrée, que ce soit dans les Pyrénées ou que ce soit dans les Alpes. On sait très bien qu'il y a des populations qui savaient et qui n'ont rien dit. Bon, et on a travaillé sur le zonage. Alors après, il s'agit de savoir à quelle échelle de temps on travaille. Est-ce qu'on travaille à de l'échelle à 50 ans ? Est-ce qu'on travaille à de l'échelle à 200 ans ? À ce moment-là, vous allez intégrer un certain nombre de paramètres qui seront pris en compte ou qui ne seront pas pris en compte. Et après, vous avez un jeu très subtil entre l'investissement, le vouloir vivre à tel ou tel endroit et un pari. Mais la vie est constamment un pari. Quant au terme du risque zéro n'existe pas. Non, l'aléa zéro n'existe pas. On peut parfaitement faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque. Il suffit qu'il n'y ait pas de population si tu t'intéresses au problème de l'espèce humaine. Hein, parce qu'on peut aussi relativiser, élargir. Voilà.
Alors, nous avions des amis donc, à Vézenobre qui avaient une maison. Le Gardon a débordé. Il y a eu souvent des catastrophes et des morts là-bas. Et la préfecture donc, prend des mesures. Donc je ne vois pas pourquoi elle ne les prendrait pas dans l'autre, mais là vraiment, bon, c'est un problème de réglementation. Il ne peut plus vendre sa maison. Il a le droit, lui, de l'habiter s'il veut et de prendre le risque de se noyer. Mais il ne peut ni la louer, ni la vendre. Et est-ce que vous pouvez m'apporter des précisions ? Donc il ne peut ni la louer, ni la vendre. C'est l'État qui la rachète. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, non, c'est un problème de droit, monsieur.
Vous n'êtes pas d'accord ?
Oui, alors... Oui, non. Non, il est obligé d'informer. Il est obligé d'informer. Donc, par le fait qu'il informe, effectivement, il n'y aura plus de locataires. Par le fait qu'il informe, effectivement, il n'y aura peut-être plus d'acheteurs. Bon, mais on peut toujours acheter. Simplement, vous êtes informé et vous allez acheter à un prix. Et à la limite, vous allez vous faire payer pour y vivre. Bon, mais la préfecture, elle ne peut pas interdire, monsieur. Attention. Non, vous avez une constitution. Vous avez des droits de l'homme qui ont été énoncés. Donc, le droit de propriété, actuellement, c'est encore puissant. Donc, on peut acheter,
on peut louer. Le problème, c'est de trouver un acheteur ou un loueur. Donc, il dit, je ne peux pas vendre ou je ne peux pas louer parce que, en fait, le risque est affiché de façon importante et qu'à ce moment-là, il n'a pas d'acheteur ou il n'a pas de locataire. Mais on ne lui interdit pas de vendre. Calmons-nous de ce côté-là. Hein. Alors, derrière ça, il y a une autre réflexion qu'il faut conduire, qui est une question clé. C'est qu'est-ce que c'est que le bien public ? Qu'est-ce que c'est que l'intérêt public ? Vous avez attaqué tout à l'heure, gentiment, un certain nombre de fonctionnaires. Ils ont une certaine conscience ou une certaine perception du bien public et de l'intérêt public, qui n'est peut-être pas la vôtre, mais là aussi, relativisons aussi. Parce que le bien public et l'intérêt public, pour un élu, c'est peut-être aussi de pouvoir alimenter le budget de sa commune ou de son conseil général ou toute autre chose, c'est-à-dire d'engranger de la taxe d'habitation, d'engranger de la taxe mobilière. Et là, il y a un jeu très subtil parce que bien souvent, hein, vous avez des gens qui ne vont pas vouloir voir les choses sous l'angle global. Hein. Donc, donnez-moi de la subvention, mais je ne veux pas payer. Je ne veux pas payer d'impôts, mais je veux de la subvention. La responsabilisation. Eh oui.
Alors, je pense qu'il y a aussi, dans la mesure où il y a des plans de prévention des risques, la possibilité pour les collectivités territoriales de racheter le bien. Hein. Simplement, ça peut être parfois à des coûts exorbitants. Et on a posé la question à des élus de CUCSAC ce matin. Et bon, ils nous ont dit, ben, ça serait impossible de racheter.
Alors là, il faut aussi relativiser. Bon, soit vous avez le fonds Barnier, bon, qui est peu utilisé en France, qui va permettre, en ponctionnant d'ailleurs sur ce qui est payé pour vos assurances, bon, qui va permettre d'exproprier avec un prix qui est déterminé par les domaines. Bon, et qui est un prix qui est quand même assez bien discuté. Si on prend le cas de la Sichilienne, bon, par exemple, hein, si on prend le cas de la Sichilienne, à peu près 90%, 95% des maisons ont été rachetées sans que les vendeurs ne discutent le prix du rachat. Ça, vous avez le fonds Barnier. Après, vous avez la loi Bachelot-Narquin qui institue un droit de délaissement ou une possibilité de délaissement. C'est autre chose. C'est autre chose parce que là, il faut que le conseil municipal, que la commune soit d'accord. Et ça pose un gros problème à la commune. Parce que d'une part, elle va accepter en quelque sorte, hein, si elle institue le droit de délaissement et la possibilité pour la personne de faire jouer ce droit de délaissement et donc de céder son bien, que ce soit par rapport à du risque anthropique, une usine, ou par rapport à du risque dit naturel, de l'inondation, de la sécheresse, du risque, bon, ce que vous voulez. Eh bien, à ce moment-là, cette commune, si elle accepte, si elle reconnaît ce droit de délaissement, elle se, entre guillemets, contraint à payer un certain prix. Et en plus, elle se tire une balle dans le pied, puisque le terrain va devenir une friche. Donc, elle va perdre de la taxe immobilière, elle va perdre de la taxe mobilière. Bon, vous n'avez pas de conseils municipaux en France qui ont accepté, enfin, qui ont voté pour la mise en place du délaissement. Il faut être logique. Dans la taxe professionnelle, il n'y en aura plus.
Par rapport à la retorte, puisque vous êtes là, tous les gens qui pouvaient habiter proche des rivières et qui n'entretenaient peut-être pas beaucoup les abords, etc., est-ce qu'ils ont été amenés par la suite à avoir un peu plus d'attention sur le nettoiement? Est-ce qu'il y a une surveillance à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment on peut agir?
On fait confiance à l'homme, hein, tout simplement. Hein. Non, on n'a pas de moyens de pression, on va dire. Voilà, on fait de la sensibilisation. Voilà. Avant la rivière, le fleuve, c'était on évacuait les déchets de celui-là. Non, mais c'est pour ça que la mémoire, la sensibilisation, elle est au quotidien, quoi. Elle est vraiment au quotidien. On oublie très rapidement, et Frédéric le disait, les enquêtes l'ont prouvé, au bout de 8-10 ans, si... Alors, 7-8 ans. Si une nouvelle inondation, une nouvelle crue ne survient pas... ou un incendie, voilà. Mais je parle de la redorte, puisqu'on m'interpelle sur la redorte, qui essentiellement c'est le risque d'inondation. Ben, les gens oublient, on reprend les vieilles habitudes, entre guillemets. Voilà. Ouais. Donc c'est le syndicat de bassin qui, tous les 3 ans, fait un passage, fait une rotation sur tout le cours d'eau pour nettoyer. Alors nettoyer, ça ne veut pas dire tout arraser. Non, non. Il y a ce que Monique Faure vous a indiqué. On freine en amont, en aval, et on accélère dans le cours du... Puisqu'en fait, la différence avec les basses pleines de l'Aude, c'est que nous, c'est une crue torrentielle. Voilà, il faut qu'elle passe vite dans le village.
Voilà. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, de cette expression de se tirer une balle dans le pied. Il y a aussi un effet pervers en France, qui est que finalement, quand on voit des outils comme les plans de prévention des risques qui sont là donc pour réglementer l'utilisation des sols, là aussi, il y a en fait... dire qu'il y a... Il y a un manque d'incitation à avoir recours à ce PPR, c'est-à-dire que finalement, les communes n'ont pas intérêt financièrement à voir un PPR se mettre en œuvre au sein de leur commune. Et même si on pousse le raisonnement un peu plus loin, un assuré n'a pas d'intérêt non plus financier. C'est-à-dire ce qu'il risque en termes assurantiels, en termes de modulation de la franchise, et peu de choses par rapport à des contraintes économiques qui peuvent lui être imposées au travers de prescriptions des PPR qui peuvent aller jusqu'à 10% de la valeur vénale du bien. Donc si on met en regard les contraintes économiques qui peuvent être imposées en l'absence de PPR, qui n'est finalement que cette modulation de la franchise, mais finalement c'est une maigre contrainte par rapport à d'autres contraintes économiques qui sont beaucoup plus lourdes et qui peuvent être imposées via le PPR. Donc c'est vrai que cet outil qui peut être perçu comme un outil phare en termes de gestion des risques d'inondation, ben, les communes n'ont pas intérêt à voir les PPR se mettre en œuvre sur leur territoire.
Et puis on peut supposer aussi que dans l'hypothèse d'un marché de l'assurance, c'est-à-dire dans l'hypothèse où les gens seraient libres de souscrire ou ne pas souscrire l'assurance, et dans l'hypothèse où on ferait payer aux personnes le prix réel du risque sur une parcelle, on peut supposer, et ça a été montré dans de nombreux pays, que finalement le prix de vente ou le prix de location, le marché finalement immobilier et foncier intègre la dépréciation du bien fonction du risque. Donc le bénéfice serait assez nul. Enfin, tout ça pour dire que le PPR en France, c'est nécessaire, on ne peut pas s'en passer. Si l'État lâche sur les PPR, on va assister à une nouvelle urbanisation des zones à risque. Hein. Ça, c'est à peu près évident. Hein.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, derrière ces contraintes-là, il faut véritablement une volonté politique forte donc de la part des pouvoirs publics, parce qu'effectivement, sur le terrain, les communes, à court terme, hein, bien sûr, parce que les chiffres que je vous ai donnés, c'est à court terme. Si on intègre des bénéfices en termes de prévention à long terme, des bénéfices qu'il pourrait y avoir en termes d'impact sur la réduction de la vulnérabilité, effectivement, sur du long terme, un PPR pourrait, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là, mais pourrait certainement engendrer des économies importantes. Mais c'est vrai que sur du court terme, eh ben, on s'aperçoit que l'assuré, quand il fait les comptes, il n'a pas d'intérêt à voir à court terme le PPR se mettre en place sur sa commune. Et donc, d'où l'importance d'une volonté politique forte au niveau national pour justement pouvoir mettre en œuvre ces outils-là.
Alors cette volonté politique forte, elle va s'articuler de deux façons. Il y a le choix entre, en gros, hein, à la louche, entre deux choix. Soit c'est la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché. Et là, on est quasiment dans le modèle anglo-saxon. Bon, libéralisme absolu, et vous prenez une assurance, vous n'en prenez pas, mais il faut aller jusqu'au bout du système, la catastrophe arrive, vous ne venez pas pleurer. soit on est dans un système de normes, ce qui était le système prédominant, on va dire, jusque dans les années 1980, idéologiquement 90, puisqu'on a la loi de 82, puis après la loi Barnier, donc où on va penser que par la loi, par la norme, on va arriver à essayer de réglementer ça, on va contrôler, hein, on va réguler tout ça, et en échange de la régulation imposée par le législateur, on va accepter de payer vers le sinistré, c'est-à-dire de l'indemniser, hein, par les lois CatNat et ainsi de suite. Bon, mais en fait, actuellement, on est dans un système qui est en train d'évoluer, sans vouloir dire qu'il est en train d'évoluer. C'est la même chose d'ailleurs par rapport aux assurances, qui à une époque, quand même, une des plus grandes directions au ministère des Finances, c'était la direction des assurances, quand les compagnies d'assurance avaient été nationalisées. Et donc, en fait, les compagnies d'assurance, derrière ça, c'était l'État. Donc, il était facile de dire aux compagnies d'assurance, vous allez payer, puisque de toute façon, on était dans un système quasiment étatique. Hein, bon, là, les compagnies d'assurance, elles ont été, entre guillemets, privatisées. Bon, mais en même temps, on leur demande de payer. On n'a pas encore fait le choix entre un système libéral absolu et un système d'intervention étatique. Bon, avec toujours pareil, ce problème aussi du temps. Prenons l'exemple, 1930, hein, donc une série de catastrophes en 1930. Il faut attendre 1935 pour avoir les décrets-lois qui mettent en place un zonage, mais arrive la guerre. Et donc, en fait, le zonage, en grande partie, il ne se fait pas. Et puis, on a les 30 glorieuses, et puis on oublie, et puis boum, à nouveau, ça revient. Bon, avec en plus une expansion, donc qui va toucher les zones inondables, mais qui touche, il faut le rappeler, toutes ces zones qui sont soumises à la sécheresse en France, en Val-de-Loire, partout il y a de l'argile, hein, dans la vallée de la Garonne, la moyenne Garonne, et ainsi de suite, bon, et qui touche d'autres zones. Et après, il va y avoir un paramétrage politique. À un moment donné, on va décider d'étendre, hein, cette réglementation aux Antilles et à La Réunion, hein, parce que d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est peut-être aussi français que le Cantal. Bon, il faut quand même remarquer qu'à un moment donné, ce n'était pas la même réglementation. Hein, bon, il y a aussi des pas de temps à observer et une clarification politique à mettre en place. Et ça, c'est bien embêtant, hein, d'être clair.
On va terminer. Et je crois que ce qui est intéressant pour finir, c'est peut-être, quand on parle de prévention, qu'est-ce qui est prévu ? Pardon. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour prévenir ? La population. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ? Je crois que ça aussi, c'est peut-être important de pouvoir l'aborder rapidement. Il y a le cas de la Rodorte. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez reçu un prix. Ça veut dire quoi, tout cela ? Alors, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a facilement la possibilité d'avertir la population avant qu'il y ait la catastrophe, avant qu'il y ait des morts, avant qu'il y ait tout ça.
Le mot a été dit, c'est une question de volonté politique, dans le sens noble du terme, vie de la cité, de l'intérêt public. Lors de la révision et de la mise en place du PPRI à la Rodorte, qui a été approuvé en 2007, effectivement, on a vu, il y avait quelques petites incohérences, comme souvent, il a fallu un petit peu redessiner. Mais on a vu des propriétaires venir en disant « Mais attendez, là, en 99, c'était limite, et puis vous imaginez bien la valeur, etc. » Mais c'est un choix politique, il ne faut pas céder. Alors certes, électoralement, ce n'est pas porteur, mais il faut faire ce choix-là. Alors au niveau de la prévention, alors la Rodorte a été distinguée, mais honnêtement, on a acheté un produit qui a été mis en place. Voilà, et c'est une question aussi de volonté. C'est un système qui permet de prévenir, donc je vous l'ai dit en introduction, avant on avait de 90 minutes pour avertir la population, on n'en a plus que 15. Voilà, il peut se déclencher en étant à l'extérieur du territoire. On l'a testé lors de la tempête Klaus, donc phénomène tempête, oui. Le 24 janvier. Le maire était à Nîmes. Le préfet a ordonné de ne plus circuler sur les routes. Hein, c'était dans l'Aude, ça a été bien appliqué. En 15 minutes, les Rodortais n'ont pas pris leur voiture, ils ne sont pas allés sur les routes. Voilà. Donc, brièvement, donc c'est la prévention, c'est la sensibilisation. Alors après, ça n'a pas été abordé, le phénomène climatique. Il y a une société en relation avec Météo France qui est Prédict, dont s'est dotée la Rodorte, et maintenant au niveau du SDIS et du SMAR, qui permet de suivre en direct l'évolution d'une masse nuageuse, d'un orage potentiel. On a eu à le tester il y a quelques mois, où effectivement on nous a appelé en disant attention, il y a une forte concentration sur la montagne noire, et on sait très bien que 30 minutes après, ça déboule à la Rodorte. le nuage a évolué, on s'est trouvé dans la situation, est-ce qu'on alerte ou on n'alerte pas? Et puis le nuage a pris une direction totalement opposée à ce qui était prévisible. Donc le système n'a pas été mis en alerte. Mais ça, c'est important, voilà. On sait qu'il y a un décalage de 30 minutes. 30 minutes, ça permet, si on est averti, on permet d'évacuer une centaine de foyers dans le centre-bourg et ça évite les morts. Voilà. Et c'est une question, une volonté politique forte.
Voilà. Je crois que, merci, je crois que monsieur, vous êtes pompier, il me semblerait. Si vous voulez bien venir ici, peut-être nous dire un peu comment est-ce que vous êtes préparé, vous, à ces risques. Est-ce qu'aujourd'hui, votre profession, je peux imaginer, travaille là-dessus, sur les préventions, comment vous... Merci d'abord de pouvoir... Je vous ai un petit peu forcé. Je crois que vous êtes commandant, non ?
Oui, c'est ça, je vais me présenter. Bien, donc je suis le commandant Ancel Arnaud, donc du département de l'Isère. Donc je ne suis pas vraiment dans ma région, mais nous avons pas mal de risques, à peu près tous, sauf le tsunami, donc ça va à peu près. Pour répondre à la question, alors je vais d'abord faire une aparté, c'est le fait de dire que la commune a été récompensée pour avoir mis ce système d'alerte. Moi, ça me fait dire que c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est ça qui doit faire peur, parce que ça veut dire que tous les autres ne l'ont pas fait ou ne sont pas au même niveau. Donc c'est l'effet inverse que ça m'a fait. Tant mieux pour vous, hein, mais c'est l'effet inverse que ça me fait. Et je connais la même problématique dans le risque industriel, puisque je m'occupe aussi de ça, où on a une commune dans le sud de la France qui se prévaut d'être la première, d'être toujours en avant, mais c'est la seule, quoi. Non, bon. C'était un aparté. Pour ce qui nous concerne, la préparation, alors nous, on arrive toujours en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'on a une information comme quoi, oui, il va y avoir une inondation sur telle zone, pour reprendre le principe de l'inondation, et après, la sécurité civile, on nous donne, en gros, on va dire l'ordre, parce que c'est comme ça que ça se passe, dire, faites en sorte que ça se passe bien si la problématique arrive pour sauvegarder la population en premier lieu, et après, bien entendu, les biens et l'environnement. Donc après, il nous appartient de mettre en place donc des plans de secours. Alors dans le cadre, alors après ça va devenir un peu complexe, mais dans le cadre du plan ORSEC, du dispositif ORSEC qui a évolué ces derniers temps, qui contient en fait des dispositions générales que tous les sapeurs-pompiers et tous les services de secours, quels qu'ils soient, donc le SAMU, les pompiers, la gendarmerie, les services de la DDE et tout, nous avons des données communes sur l'ensemble des risques possibles et imaginables dans un département. Et à partir de cette disposition générale, il est mis en place dans chaque département des dispositions spécifiques. Un que vous connaissez à peu près tous, c'est celui qu'on appelle le plan rouge. Donc en fait, ça s'appelle la disposition spécifique nombreuses victimes, mais on l'appelle toujours le plan rouge. Et pour les inondations, donc nous avons plusieurs plans donc, qui concernent en fait selon les fleuves. Pour ce que je connais, parce que encore une fois, je ne suis pas d'ici, on a un plan spécifique par rapport à l'Isère, donc qui traverse le département de l'Isère par la commune de Grenoble. Mais nous avons également un plan Rhône, puisque le haut de l'Isère, l'Isère est un département très allongé, a un plan spécifique, parce que ce n'est pas du tout les mêmes types de problématiques en termes d'inondation. Donc ça dépend effectivement du bâti. Dans le Rhône, c'est plutôt des plaines, alors que du côté de l'Isère proprement dite, nous avons la vallée du Grésivaudan. Ceux qui connaissent Grenoble, c'est une cuvette. Hein. Donc on a les trois vallées. Et on peut difficilement y échapper. Donc la problématique est différente. Donc c'est deux plans différents. Donc voilà, en fait, nous demande de préparer ce type de dispositif. Et on travaille énormément avec, les climatologues, on va dire, de Météo France et les gens du SPC, pour ce qui me concerne, qui nous avertissent dès qu'ils peuvent. Et nous, donc, en fait, on travaille avec eux pour avertir au mieux les élus, pour éviter effectivement d'avertir pour rien. Parce que les gens, on sait bien que si on leur dit une fois, deux fois de partir, trois fois de partir de chez eux, la quatrième fois, ils ne vont pas partir et nous, on va être en difficulté. Parce que de toute façon, nous devrons aller les chercher d'une manière ou d'une autre. Quoi. Donc soit d'une manière gentillette, soit d'une manière coercitive avec la gendarmerie. Mais bon, des fois, il faut ça pour assurer la sécurité des gens. Voilà en résumé.
Merci. Merci pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Je crois que on va peut-être arrêter là. Il y a peut-être quelqu'un qui voudrait conclure. Je ne sais pas si... oui.
Moi, j'aimerais quand même terminer, peut-être d'autres qui interviendront, terminer sur une note un petit peu optimiste, parce qu'on a toujours tendance à dire
les risques, il y en a de plus en plus, il y aura plus d'inondations, on en trouve, chaque année on en trouve des nouveaux, il y en a qui travaillent sur le risque de chute de météorites, enfin, etc. Sur le long terme, sur l'histoire, on est quand même dans une tendance de diminution du risque sur les personnes. Hein, je parle sur les personnes. Si dans la région, par exemple, les grandes inondations meurtrières, c'était plutôt l'apanage du 19e siècle jusqu'à la mi-20e. Hein. Il y a eu Saint-Chinian le 13 septembre 1875, c'est pas loin de l'Aude, sur le bassin de l'Orbe. Il y avait eu une centaine de morts. Dans le Gard également, en 1860, une centaine de morts. Dans le sud-ouest de la France, plus de 200 morts. Les bilans sont incertains en 1930. Hein, et puis la dernière grande catastrophe, c'était 1940. Et depuis 1940, il n'y a pas eu de catastrophe, disons, à plus de 50 victimes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. Il peut y en avoir. Mais on a quand même... Et dans ces catastrophes, la plupart des victimes sont mortes dans l'écroulement de leur maison. Hein, ce qui était tout à fait le cas à Saint-Chinian et en 1930, les gens sont morts dans leur maison et la qualité des maisons ne leur permettait pas de résister au flot. Hein. Donc là, il y a quand même eu une amélioration, même si tout n'est pas parfait, il y a eu une amélioration sur ce plan-là. Voilà.
Oui, c'est vrai. Mais alors là, parlons pour notre pays. Parce que si on regarde ce qui s'est passé en 2009... Taïwan, les Philippines, Manille, etc. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts hein, par le passage des cyclones, etc. Alors c'est vrai, mais ces pays du sud-est de l'Asie, ce sont des pays extrêmement peuplés et maintenant, en termes de coûts économiques, ça devient également très important. Autrefois, on disait, oui, il y a, lorsqu'un séisme se produit au Japon ou aux États-Unis, il y a beaucoup de dommages en termes économiques, mais finalement, les pertes en vie humaine sont limitées, voire parfois inexistantes. Et dans les pays en voie de développement ou carrément sous-développés, finalement, il n'y a pas beaucoup de dommages matériels, mais c'est essentiellement des pertes en vie humaine. Maintenant, je crois qu'il faut revoir un petit peu les choses. Et c'est vrai, finalement, la France, on vit dans un pays relativement sûr de ce point de vue-là par rapport aux aléas. Hein, mais... regarde l'Asie ou l'Afrique ou l'Amérique latine, on s'aperçoit que c'est vraiment... les pertes deviennent très importantes.
Mais je crois qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, il faut conclure. C'est vrai que c'est pas forcément un sujet facile, mais en tout cas, on vous remercie, mesdames, messieurs, d'avoir participé à ce bar des sciences. Alors, j'espère que vous n'allez pas partir avec le regret de ne pas avoir pris la parole. Si c'est le cas, ben c'est un petit peu dommage. Et on vous invite au prochain bar des sciences que l'on aura préparé pour vous. Je ne sais pas, peut-être que Alain veut conclure pour remercier peut-être un petit peu tout le monde. Hein?
Déjà pour excuser peut-être, bien qu'il ne m'ait pas mandaté pour ça, Jean-Claude Pérez qui devait venir. Comme il le fait à tous les bars des sciences, mais depuis sa nouvelle fonction à la mairie, il a eu quelques difficultés, il a dû se décommander à la dernière minute. Voilà. Ben, écoutez, moi j'ai découvert plein de choses. Je discute de temps en temps avec des collègues à Montpellier, à l'école des mines d'Alès, aussi sur des gens qui font de la prévention aussi, en liaison avec la préfecture. Tout ça est extrêmement riche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les sciences de l'eau aussi dans notre université, à l'université Montpellier 2 et certainement dans les autres. Donc je sais que c'est un sujet colossal qui mobilise beaucoup de scientifiques. On a vu un certain nombre. Je crois que j'ai eu le sentiment que les réponses aux questions étaient très bien, quoi, hein, qu'il y a eu un bon débat. Peut-être pas tous les intervenants qui auraient souhaité parler l'ont fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très content de ce bar des sciences, même si on a eu un petit accrochage au début.
Oui. Merci. Très bien. En tout cas, il n'y a pas eu de catastrophe. Et c'était justement ce que l'on souhaitait aujourd'hui. Merci, messieurs, dames. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce débat sur le site de les pays carcassonnés. On va peut-être vous donner l'adresse avec Arlette ou Véronique.